Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC.
Dans une poignée de secondes, il sera à 7h et vous écoutez RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La colère qui dégénère, des milliers de Français sont descendus dans la rue hier soir partout en France pour dénoncer le passage en force de la réforme des retraites. 217 interpellations à Paris. La riposte se prépare, au moins deux motions de censure seront déposées dans la journée. Une neuvième journée de mobilisation la semaine prochaine, le jeudi. Et puis la belle aventure azuréenne, Nice en quart de finale de Conference League en battant Tiraspol 3-1.
Et juste après votre journal, Quentin, mon invité, ce sera la députée LFI Raquel Garrido qui veut maintenant faire tomber le gouvernement. Et puis, notez à 8h30 tout à l'heure la première interview d'Olivier Dussopt depuis le 49.3. Ce sera donc à 8h30 sur RMC et BFM TV. Ce sont des milliers de Français qui sont descendus spontanément dans la rue hier soir.
Oui, au moins 2000 à Marseille, 3500 à Nantes et 6000 à Paris, où le rassemblement place de la Concorde s'est transformé en manifestation sauvage avec des feux de poubelle et des dégâts dans les beaux quartiers, comme nous le raconte Nicolas Robert pour RMC.
Des groupes de manifestants déambulent en chantant des slogans dans les rues de la capitale. Les forces de l'ordre chargent et les repoussent loin de la place de la Concorde avec gaz lacrymogène et bombes assourdissantes. Les protestataires, souvent à peine majeurs, brisent des vitrines, brûlent des poubelles et s'en servent comme barricades. Le pare-choc d'un 4x4 a complètement fondu. Son propriétaire, sidéré, découvre son véhicule.
C'est niqué ma voiture, j'ai rien à voir. J'ai quoi à voir, moi, dedans?
Devant l'Olympia, des commerçants tentent d'intervenir pour empêcher de nouvelles dégradations. David, qui tient une brasserie chic en face, en veut au président Emmanuel Macron.
Tu vois, tu le fais aussi, lui, hein. 49.3, fallait oser. Hein.
Ça peut être très explosif si les étudiants se mettent dedans. C'est les jeunes, hein, qui n'ont rien à foutre. Les mecs, ils foutent le feu, ils courent, ils se barrent.
Ce 49.3 a décuplé la colère.
C'est la fête de la défaite de Macron qui s'annonce pour nous.
Ces violences sont inévitables, défend Paco, un des protestataires.
Tant qu'on ne sera pas devenu une gêne pour ceux qui décident, bah, ils vont rien faire. On est au début de quelque chose. Ce sera une forme de continuité des gilets jaunes.
Après plus de 3 heures d'échauffourée, le calme est revenu vers 22h30 dans les rues de la capitale.
Il y a eu 217 interpellations selon BFM TV. Guillaume Bier, chef du service police-justice à RMC, vous êtes en direct avec nous ce matin. Ça a dégénéré parce que ces manifestations étaient inattendues.
Alors le rassemblement à la Concorde, lui, il était prévu, il s'est déroulé sans incident majeur. C'est la dispersion qui a dégénéré. Au moment d'évacuer la place hier soir, il ne restait que des militants déterminés qui se sont opposés aux forces de l'ordre. Ils ont été repoussés plus loin et se sont retrouvés dans les quartiers de luxe entre la place Vendôme et la Madeleine, rejoints par un cortège de jeunes partis de la Sorbonne. Tout cela dans des rues jonchées de nombreuses poubelles non ramassées à cause de la grève. Ça a donné les scènes d'incendie, de dégradation et de tirs de mortiers d'artifice.
Bon, alors là, on parle de Paris, mais ça a dégénéré dans d'autres villes.
Oui, à Rennes, notamment, la maire socialiste parle de violences sidérantes de la part de casseurs. Environ 300 personnes ont dégradé l'hôtel de ville, molesté des agents, allumé une vingtaine d'incendies ou encore pris pour cible un hôtel de luxe. Des heurts aussi à Nantes, feux de poubelles, jets de projectiles sur les forces de l'ordre, vitrines brisées, tout comme à Marseille. Incidents également à Lyon, Amiens, Lille, Grenoble ou encore à Dijon.
Et des mannequins, oui. Des mannequins à l'effigie du gouvernement brûlés à Dijon. Les manifestations se déroulaient dans le calme depuis janvier, mais c'est le 49.3 qui a mis le feu aux poudres.
Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité...
Ah, vous entendez la Première ministre, Elisabeth Borne, choquée. Elle s'est dite choquée par le brouhaha de la gauche qui a chanté en boucle la Marseillaise pendant qu'elle avait recours au passage en force hier pour la 11e fois depuis le début du quinquennat.
Vous savez, j'ai été très choquée. Quand vous avez des hurlements, des chants... du côté des députés de la NUPES, des députés du Rassemblement National qui tapent sur leur pupitre des cris où on ne s'entend même pas parler. Ça traduit le fait qu'un certain nombre de groupes d'opposition ne respectent pas nos institutions. Certains, du reste, l'ont dit clairement, ils veulent le chaos à l'Assemblée et dans la rue.
Voilà, Elisabeth Borne, 20h de TF1, qui a donc engagé la responsabilité de son gouvernement avec le 49.3 et les oppositions jusqu'à 15h20, précisément cet après-midi, pour déposer des motions de censure. On sait qu'il y en aura au moins deux, une du Rassemblement National et une autre
transpartisane, comme on dit, des indépendants de Lyot, avec le soutien de la NUPES. Jérémy Trottin, chef du service politique à RMC. Est-ce que ça peut aboutir déjà et est-ce que ça peut faire tomber le gouvernement?
Alors si on examine de près ces deux motions, celle du Rassemblement National n'a aucune chance de renverser la Première Ministre, car à l'exception de quelques individualités, les députés de la NUPES refusent de voter une motion venue de l'extrême droite de l'hémicycle, tout comme les Républicains. En revanche, la motion de Lyot, ce petit groupe méconnu de 20 parlementaires du centre et des Outre-mer, beaucoup moins marqué politiquement, pourrait, elle, faire le plein de voix. Si on ajoute les 149 députés de la NUPES, les 82 du RN, les non-inscrits et ceux de Lyot, on arrive à 262 députés, manque encore au moins 25 voix. Une fois de plus, tous les regards seront tournés vers les Républicains. Si la direction du parti est contre le vote de cette motion, certains députés devraient malgré tout voter la censure, mais sans doute ce sera sans doute encore insuffisant pour faire tomber le gouvernement d'Elisabeth Borne.
Emmanuel Macron a mis en avant les risques économiques et financiers pour avoir recours au 49.3, selon les informations de BFM TV. C'est un crachat à la figure de tous les travailleurs. Voilà ce que dit la CGT à Marseille. Les syndicats ont appelé dans la soirée donc à une 9e journée de mobilisation jeudi prochain, le 23. Mais alors, pas avant, ce qui surprenait les manifestants hier soir, Romain Poiseau.
Pas de grosse mobilisation prévue avant jeudi prochain.
Alors on n'attend pas jeudi parce qu'il ne vous a pas échappé qu'on appelle à plusieurs dates.
Plein de petites, selon Catherine Perret, secrétaire confédérale de la CGT en charge des retraites.
On appelle dès ce week-end à des rassemblements, là où les gens vivent, habitent, dans les villages, dans les petites localités, le plus près de chez eux.
L'objectif, cristalliser la colère des Français dans les campagnes, dans les villes, contre l'utilisation du 49.3, rassembler pour la grande manifestation de jeudi prochain.
Cette colère qui est la nôtre, elle va se transformer en mobilisation.
Faire monter la pression le plus vite possible pour Benoît Teste, secrétaire général de la FSU.
Parce que d'une certaine manière, on est aussi dans une dernière ligne droite où on peut encore gagner si on donne ce dernier coup.
Un dernier coup de collier pour mettre fin à l'obstination d'Emmanuel Macron. Pour Dominique Corona, secrétaire général adjoint à l'UNSA.
Il n'est pas encore trop tard pour que le président de la République entende et prenne la parole en disant « je retire ». Il faudrait qu'on soit encore bien plus nombreux dans la rue. Il faut qu'ils comprennent une bonne fois pour toutes que personne ne veut de cette réforme. Personne.
Il appelle donc le président de la République à la raison.
S'obstiner, c'est abîmer la France.
Avant que les manifestations ne dégénèrent.
Et quand on aime la France, on ne peut pas l'abîmer.
Voilà, il faut la grève partout, c'est ce que disent les syndicats. Les rassemblements sont donc prévus devant les préfectures et sous-préfectures aujourd'hui à Dax, Mont-de-Marsan, Foix, Laval. Pareil à Rouen, midi devant la mairie, à Toulon dès 9h30. En attendant, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande dans une circulaire au préfet de renforcer la protection des élus de la majorité. Une demande formulée par la chef de file, des députés Renaissance, Aurore Berger, redoutant des représailles. Il est 7h06 sur RMC. L'Assemblée nationale a voté hier soir, tout autre chose, un durcissement des peines sanctionnant les intrusions dans les centrales nucléaires. Elles vont doubler de 1 à 2 ans de prison dans le cadre de son projet de loi de relance. La gauche redoute que ce soit un frein aux actions des anti-nucléaires et des lanceurs d'alerte. Je vous signale ces perquisitions chez Optical Center, le numéro 1 des lunettes en France, on l'a appris hier soir. 7 personnes placées en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale, soupçonnées d'avoir mis en place un système de fausses factures pour réduire significativement le montant de ses impôts. Et puis l'aventure européenne qui continue pour Nice, vainqueur 3-1 de Tiraspol hier soir, est qualifié pour les quarts de finale de la Conference League, c'est la troisième compétition européenne. Première en quart depuis 1960, faisait remarquer le défenseur niçois Jean-Claire Tolibeau.
On sait qu'aujourd'hui, on a une histoire à écrire. On va essayer de rendre cette histoire encore plus belle et pas s'arrêter sur un quart de finale. Après, on va pas jouer la compétition avant l'heure. On prendra match après match.
Voilà, match après match, on saura ça à 14h tout à l'heure, le tirage au sort. La Fiorentina et West Ham en possible adversaire pour les Niçois. Et on va suivre ça, évidemment, puisque c'est le dernier représentant en Coupe d'Europe.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 7h07 sur RMC.
RMC s'engage pour vous.
RMC s'engage pour vous ce matin avec Johanna Chabas. Bonjour Johanna.
Bonjour.
Vous nous donnez des nouvelles d'Elisa. Elle se battait depuis 2 ans pour faire valoir ses droits auprès de l'assurance retraite.
Et Elisa a perdu son mari il y a 2 ans. Augustino est mort en avril 2021 des suites du Covid à l'âge de 64 ans, juste avant de prendre sa retraite. Il n'a jamais pu profiter de la pension pour laquelle il a cotisé toute sa vie. Sa veuve, Elisa, a donc le droit à une pension de réversion, une partie de cette retraite jamais touchée. Sauf que tout était bloqué à cause de son numéro de sécurité sociale, ou plutôt ses 2 numéros, car oui, normalement c'est impossible, mais dans de rares cas, des étrangers arrivés en France dans les années 70 se sont retrouvés avec 2 immatriculations au moment de leur inscription à la sécurité sociale. C'est ce qui est arrivé à Elisa. Depuis notre intervention, ça avance. L'assurance retraite a fusionné ses 2 numéros en un seul. Elisa a reçu tout ce que l'État lui devait depuis 2021, soit 3 600 euros. Et désormais, cette femme de ménage aux revenus modestes touchera sa pension de réversion de 180 euros tous les mois. C'est sa fille Sandra qui nous a donné des nouvelles, car c'est elle qui s'occupe des démarches pour sa mère.
Ça va faire 2 ans que mon père est parti. Et c'est douloureux, c'est des épreuves. Et en fait, on ne peut pas penser à la personne, on pense aux formalités administratives. Et donc là aussi, on pense à lui tout simplement. Et c'est grâce à lui, à ses années de travail, que voilà, ma mère aujourd'hui a le droit à cette partie. Mais voilà, c'est tout ce qui nous reste hein, en fait.
Est-ce que tout est réglé pour Elisa et sa famille ?
Pas totalement, car vous l'avez compris, pendant des années, Elisa a cotisé sous 2 numéros de sécurité sociale. Donc au moment de partir à la retraite, ça pourrait encore cafouiller, il pourrait lui manquer des trimestres. Donc on a rappelé l'assurance retraite. Elle nous assure qu'aujourd'hui, c'est bon. Toutes les années de travail d'Elisa ont bien été comptabilisées sous une seule immatriculation. Mais ce n'est pas fini. Elisa, avec l'aide de sa fille, doit maintenant mettre tous ses papiers à jour avec le bon numéro de sécurité sociale. Il faut notamment récupérer une nouvelle carte vitale. L'assurance retraite nous a assuré qu'elle serait toujours là pour aider la famille. Et nous, évidemment, aussi.
Merci beaucoup, Johanna. RMC s'engage pour vous, c'est chaque matin. Après le journal de 7h, il est 7h09.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Après le 49.3, place aux motions de censure. Plusieurs groupes vont tenter de faire tomber le gouvernement, dont la NUPES. Raquel Garrido, députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, nous dévoile sa stratégie. C'est dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h11 et vous êtes bien sur RMC.
Le témoin RMC.
Et le témoin ce matin, c'est vous, Raquel Garrido, témoin et acteur. Vous êtes députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, membre de la NUPES. Et c'est une nouvelle bataille qui s'engage aujourd'hui. Une bataille gagnée hier, au fond, avec le 49-3. Ou est-ce que, d'ailleurs, vous estimez qu'il aurait mieux fallu qu'il y ait un vote ?
Alors moi, comme nombre de députés, comme l'essentiel même, je pense, la majorité écrasante des députés, nous étions favorables à ce qu'il y ait un vote, bien évidemment. Ça fait maintenant 2 mois qu'il y a une aspiration démocratique dans ce pays. D'abord les Français eux-mêmes, qui ne comprennent toujours pas comment une loi dont en gros personne ne veut peut même en fait être examinée à l'Assemblée, et qui ensuite attendent de leurs députés un vote conforme à la volonté générale. Alors vous savez que depuis le début, avec un tas d'outils de la Constitution de 58, on a limité et restreint la qualité du débat parlementaire. L'article 47.1, par exemple, c'est celui
rendu les débats beaucoup plus courts, c'est-à-dire une procédure express. Hein.
Oui, et qui permet au final aussi l'utilisation du 49.3 dans le quota budgétaire, dans ce qui nous fait penser quand même que c'était quand même prévu dès le début d'avoir le 49.3.
Mais ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que normalement le 49.3, on n'y a droit qu'une fois dans la mandature, dans la session parlementaire, c'est-à-dire en gros une fois par an. Or là, ça ne comptera pas comme un 49.3 supplémentaire, puisqu'il fait partie des 49.3 qui ont été utilisés pour le budget et là pour la sécurité sociale.
Parce qu'en matière budgétaire, ils ont le droit de le faire, on va dire,
c'est des dénis de démocratie, pour reprendre le mot de Laurent Berger.
Absolument, absolument. C'est tout ce qu'on sent dans le pays, d'ailleurs, une sorte de gêne, une sorte de frustration civique, de frustration démocratique. D'ailleurs, j'étais hier quand même assez touchée du fait que l'agression contre les parlementaires faite par l'exécutif a provoqué un rassemblement spontané des citoyens place de la Concorde pour venir défendre les députés. En fait, je trouve quand même assez, alors qu'on dit beaucoup qu'il y a une crise de la représentation, etc., il y a des gens qui sont venus dire, mais ceux-là, on les a mis dans l'Assemblée nationale,
c'est une agression du côté du gouvernement, et Elisabeth Borne l'a dit hier soir, elle s'est sentie agressée par la manière dont les députés ont couvert par les huées ou par la Marseillaise sa déclaration à la tribune.
Oui, enfin, une première ministre ne devrait pas être choquée par la Marseillaise, hein, qu'on soit clair. Et en tout état de cause, ce qu'elle a fait, elle, c'est-à-dire annoncer à 5 minutes d'un vote depuis l'Élysée, c'est même pas elle, c'est même pour elle, c'est humiliant. C'est même pas elle qui a annoncé le 49.3. Ça se décide à l'Élysée. Et 5 minutes avant, ils arrivent et disent à tout le monde.
Oui, enfin,
alors que tout le monde est réuni pour voter, il n'y aura pas de vote.
Toute une loi et toute la procédure. Mais ça se décide forcément à l'Élysée, puisqu'il faut qu'il y ait eu un Conseil des ministres. Raquel Garrido, quelle suite désormais ? Allez-vous déposer une motion de censure ?
Bien sûr, puisque c'est le seul outil constitutionnel qui nous reste lorsqu'on est assailli comme ça par le 49.3. Et puis, mais bon, cela dit, ça remplacera pas un vote sur le texte.
Voilà. Alors là, vous revenez sur ce qu'a dit Elisabeth Bornière en disant il y aura quand même un vote puisqu'il y aura des motions de censure. Ce sera l'occasion pour les parlementaires de voter.
Ça, c'est un artifice puisque la question posée n'est pas la même. La question posée n'est pas est-ce que vous êtes pour ou contre la loi.
La question là, c'est est-ce que vous renouvelez votre confiance au gouvernement? Est-ce que le gouvernement peut rester? Si je fais les comptes, ça veut dire qu'il y aura une motion de censure déposée par le Rassemblement National, une motion de censure, vous venez de nous le dire, déposée par la NUPES et une motion de censure, ils l'ont annoncé, déposée par le groupe Liot. Alors le groupe Liot qu'on redécouvre cette semaine, qui est un groupe centriste, indépendant, porté par la personne de Charles de Courson. Cette motion-là, vous pourriez la voter ?
Bien sûr, bien sûr.
Vous la voterez ?
Bien sûr, je la voterai et j'aspire à ce qu'elle soit votée le plus largement possible. Moi, j'invite les députés LR qui, par...
C'est eux qui ont la clé, hein, parce que si la NUPES vote, si le RN vote, il manquera environ une trentaine de députés LR
un peu moins de
qui pourraient faire basculer...
Et donc là, vous avez des députés LR qui viennent de mettre en difficulté grave le gouvernement avec cette incertitude sur le vote de la loi retraite. Donc, ce que je ne comprendrais pas, moi, c'est que le jeudi, ces députés-là mettent gravement en difficulté le gouvernement pour le lundi expliquer que ce gouvernement doit continuer. Pourquoi fragiliser Elisabeth Borne le jeudi pour ensuite venir sauver le soldat Elisabeth Borne le lundi?
Donc là, maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Vous vous adressez aux députés LR et vous les appelez à la cohérence, c'est-à-dire vous leur dites venez jusqu'à la motion de censure, c'est-à-dire faire sauter le gouvernement.
Mais de toute façon, le gouvernement, il n'est plus à même maintenant de gouverner. L'échec de ce 49-3 est trop grave. Et puis, en plus, il provoque des choses dans le pays, c'est-à-dire il produit quelque chose de neuf. Là, il y a une étape 2 de la mobilisation. Jusqu'à présent, nous étions sur une bataille.
Est-ce que vous redoutez la colère? Est-ce que vous redoutez que cette mobilisation qui jusqu'alors s'est passée dans le calme échappe aux organisateurs, échappe à l'Union syndicale?
Ben, d'abord, les syndicats ont averti sur tous les tons de ce que sécrète un système démocratique dysfonctionnel. Quand les citoyens n'ont pas des voix pacifiques pour que la volonté générale émane du peuple, alors forcément il y a un problème. Et c'est la raison pour laquelle il incombe maintenant à tous les Français de réfléchir pacifiquement à comment on passe à une autre constitution. Moi, je dis, c'est le moment aujourd'hui. On est en train de vivre les derniers jours de la monarchie présidentielle. Ça n'est plus possible, ce système où un homme seul à l'Élysée fait des 49-3, des 44-3.
Et vous appelez, et vous rappelez donc à ce que vous appelez la 6e République.
Oui.
Y a quand même une chose qui était assez border, justement, sur la question de la représentation, comme vous dites, et du fait du prince. Jean-Luc Mélenchon, qui était dans l'hémicycle, ça vous paraît... c'était sa place pour vous?
Alors, tous les Français ont le droit de d'être dans l'Assemblée nationale.
Oui, il n'était pas sur les rangs des députés, il était dans les gradins.
Dans les gradins. Et moi, je l'ai beaucoup fait à la mandature dernière d'aller me mettre dans les gradins pour regarder mes camarades et amis insoumis. C'est un poste d'observation qui est vraiment jouissif, j'ose dire, et je comprends qu'il ait envie de participer à un moment historique. Je le comprends, je l'ai fait moi aussi. À sa place, j'ai fait pareil. J'ai fait la même chose lors de la mandature dernière, lorsque je n'étais pas députée. Voilà.
Donc il avait toute sa place là. Merci Raquel Garrido d'être venue dans ce studio. Vous
Merci
êtes députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, membre de la NUPES, et vous nous le dites ce matin, non seulement la NUPES déposera sa motion de censure, mais elle votera également la motion de censure centriste déposée par Charles de Courson. Il est 7h18 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
On vient d'en parler, il y a un parfum de crise politique. Alors, pour tout comprendre de la suite du feuilleton retraite au Parlement et dans la rue, la politologue Anne-Charlène Bézina sera mon invitée à 7h40. Et puis, que veut dire ce 49-3 pour la suite du mouvement social? Eh bien, je vous attends, vous, venez témoigner au 32-16. Avant cela, deux rendez-vous. Avant le journal de 7h30, il y aura l'économie avec Emmanuel Le Chip. Et puis Arnaud Demanche qui pirate le 32-16.
Apolline Matin.
Les indiscrets RMC.
Les indiscrets du service politique d'RMC avec vous, Jérémy Trottin. Vous nous dites ce matin que certains dans la majorité plaident pour une alliance avec LR.
Oui, depuis hier, quelques voix au Parlement, visiblement pas très revanchardes, souhaiteraient passer un accord de gouvernement avec les Républicains, du moins ceux qui étaient prêts à voter la réforme. Un programme limité dans le temps avec une majorité derrière consolidée, explique un député de Renaissance. Seule solution, selon lui, pour continuer à réformer le pays, un accord large sur 4 à 5 axes, explique un autre parlementaire. Surprise, jusque dans les rangs des Républicains, certains veulent élargir la majorité. Vous me l'apprenez, riait hier une élue de la droite. Ce sera sans moi. Il est inconcevable d'entendre que le 49-3 serait de notre faute, avertissait cette même députée du sud de la France.
Mais est-ce que cette volonté de rapprochement est partagée chez Renaissance ?
Non, loin de là, même pour preuve, les propos de ce proche du chef de l'État, un accord sur quoi, sur quelle base, quel programme, on ne pouvait pas plus leur tendre la main que sur les retraites. On a payé très cher un produit frelaté, allait jusqu'à me dire hier soir un ministre. Et pourtant, cette tentation de rapprochement existe bien au sein du gouvernement. Gérald Darmanin milite pour une majorité avec la droite, afin peut-être de la diriger lui-même un jour de Matignon. Ce qu'il s'est passé hier devrait définitivement calmer ceux qui militent pour cette alliance, insistait un membre du gouvernement.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires à 7h22.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, le pire est derrière nous pour le pouvoir d'achat.
Bah oui, j'ai voulu vous porter un petit message quand même encourageant.
Ça fait plaisir.
Ce matin, effectivement, on a sans doute mangé notre pain noir en termes de pouvoir d'achat. Et la deuxième partie de l'année sera plus favorable que celle qu'on vient de connaître ou qu'on est en train de traverser. Alors d'abord, le SMIC qui concerne quand même un salarié sur sept, il va à nouveau augmenter au printemps. Il faut rappeler la règle qui préside à la revalorisation du salaire minimum. Lorsque la hausse des prix atteint au moins 2% par rapport à la précédente augmentation du SMIC, eh bien celui-ci y est relevé d'autant le premier du mois suivant. Donc si on en croit les projections d'inflation de l'INSEE, les 2%, on devrait les avoir atteints au mois de mars ou avril. Et donc, au plus tard, le 1er juin, on devrait avoir une revalorisation exceptionnelle du SMIC d'environ 2%.
Il faut s'attendre à quelle hausse ?
Alors, je viens de vous donner la réponse avant.
Bah oui, c'est pour ça que je suis un peu étonné.
J'ai trahi. Je me suis, voilà.
Ah, vous êtes
voilà,
trahi.
Je vais vous poser
une autre question, Emmanuel.
Ouais. Non, elle
qu'est-ce
interviendra
qui va se passer
au plus tard le 1er
pour
juin,
ceux qui ne sont pas au SMIC ? Est-ce que ça va avoir un impact ?
Effectivement. Alors, juste, le SMIC, ça fera quand même 9% d'augmentation si on a les 2% au mois de juin. Par rapport à l'année sur un an. Donc c'est pas rien. Après, pour les autres, on a d'un côté deux tendances favorables. L'un, les salaires qui augmentent, on va quand même avoir 5% en moyenne de hausse des salaires en France cette année, et surtout l'inflation qui va être divisée par deux entre le mois de juin et finalement
alors,
la fin de l'année.
Ça veut pas dire que les prix baissent, hein.
Non,
faut bien le comprendre.
Non, ça veut pas dire que les prix baissent.
Ça veut dire qu'ils montent moins.
Mais grosso modo, quand votre salaire et vos revenus augmentent plus vite que l'inflation, on peut dire que vous gagnez quand même un peu du pouvoir d'achat, ce qui n'était pas arrivé depuis 2 ans. Donc, le pouvoir d'achat va baisser au cours de ce premier trimestre. Il devrait recommencer à progresser un petit peu au cours du second semestre
une
de l'année.
Une bonne nouvelle d'Emmanuel Le Chypre.
Voilà.
Donc,
bon
ce
week-end.
Matin, il est 7h24 et c'est l'heure d'Arnaud Demanche.
RMC, Apolline Matin.
Attention. Demanche pirate le 32-16.
Arnaud Demanche est avec nous. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Et ce qui fait réagir ce matin, c'est bien sûr le 49-3 déclenché hier pour faire passer la réforme des retraites.
Bah oui, quoi d'autre, hein ? Quelle journée hier ! Donc Emmanuel Macron a déclenché le 49-3 par l'intermédiaire d'Elisabeth Borne. Il a vécu une journée difficile, Emmanuel Macron, qui annonce une semaine difficile dans une année difficile, qui suit un quinquennat difficile. C'est à se demander pourquoi il reste, hein. Elle est compliquée sa présidence. Et le président nous a laissé un message. Mes chers compatriotes, j'ai utilisé le 49-3 parce que si on avait voté, on aurait perdu. Et vous savez, la démocratie, c'est surtout bien quand on gagne. Mais quand les gens sont pas d'accord avec vous, ça n'a que peu d'intérêt. Donc oui, c'est un peu triché. Mais c'est comme ça qu'on réussit. Je le dis aux bacheliers qui commencent leurs épreuves lundi. Tricher un peu, c'est comme ça qu'on devient un winner. À propos de bachelier, Benjamin Duhamel, notre éditorialiste politique qui est surdoué et qui est très jeune, nous a fait l'amitié de mettre sur pause sa partie de Worms Weapons of Mass Destruction.
C'est difficile d'être dur.
C'est difficile tous ces W.
C'est dur d'être jeune, Arnaud.
Mais il nous a livré son analyse. C'est un camouflet pour la démocratie participative. Hier, Emmanuel Macron voulait dissoudre le Parlement. Et aujourd'hui, les manifestants veulent dissoudre Emmanuel Macron. Pardon, excusez-moi. Des Français en colère ont immédiatement gagné les rues. Ils ont fait flamber des poubelles. C'est une bonne méthode, d'ailleurs, pour faire disparaître les ordures des rues de Paris. Gérald Darmanin les a dispersés à coups de canon à eau. Et il nous a laissé un message pour nous dire si ce week-end, les gauchistes qui ont manifesté hier montent une ZAD sur la place de la Concorde, non seulement je sors les canons à eau, mais en plus, je mets du savon dedans. Et là, ils vont fuir. C'est la kryptonite des zadistes. Ils seront tout pleins de mousse, comme votre directeur d'antenne, Grégory. C'est de mieux en mieux, la volonté de dialogue. Donc, autre réaction, Emmanuel Le Chypre, qui a été prudent. Il m'a dit,
Si la gauche fait tomber le gouvernement et que la NUPES prend le pouvoir, j'ai tout prévu. J'ai calfeutré ma maison avec des pages du Nouvel Économiste. J'ai stocké des DVD de discours d'Angela Merkel. J'ai creusé un tunnel pour aller jusque chez Pierre Kupferman de BFM Business. Qu'on puisse se réunir et discuter économie de marché en secret. Je suis paré.
Et ben voilà, on termine sur du positif.
Tout allez, va bien, tout il est prêt. Il est 7h27, on vous retrouve à 8h20 tout à l'heure à Arnaud Demanche. Et puis à tout de suite pour la météo et le journal. Il est 7h30 et c'est l'heure du journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Paris, Nantes, Toulouse, Marseille, des milliers de personnes se sont rassemblées spontanément hier à l'annonce du 49-3 par le gouvernement avec parfois de vives tensions et des débordements. Nous serons à Rennes dans un instant. Réunis hier soir, l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation jeudi prochain et des rassemblements de proximité dès ce week-end dans le calme. Un passage en force du gouvernement qui accroît la pression sur l'exécutif sous la menace de plusieurs motions de censure.
Nombreux débordements hier soir en marge des rassemblements spontanés après le passage en force du gouvernement sur la réforme des retraites.
Peu après le 49-3 par la première ministre Elisabeth Borne, des milliers de personnes ont convergé à Paris vers la place de la Concorde. Après dispersion, des barricades ont été érigées, des poubelles et des voitures brûlées. Plus de 200 personnes ont été interpellées. Débordements aussi à Nantes, Marseille, mais aussi Rennes, où de nombreuses vitrines ont été cassées par 300 militants ultra, selon les mots de la préfecture. La mairie parle de violences sidérantes. En direct de Rennes ce matin pour RMC, Marion Gauthier. Marion, vous avez recueilli des témoignages qui confirment la violence particulière de la soirée.
Oui, et malgré le travail des éboueurs, la ville reste marquée par les affrontements de la nuit. Une banque éventrée, des tags, des vitrines recouvertes de panneaux de bois, une odeur de plastique brûlé et des pavés qui crissent sous les débris de verre, brisés comme l'entrée d'un hôtel dans lequel travaille Mathieu. Le jeune homme semble fébrile, il soupire. Tout dans le hall d'entrée, désormais presque vide, a été cassé.
Trois gars qui sont venus avec des parpaings, défoncer la porte. Il y en a un qui est rentré, qui a saccagé que cette pièce-là, il a tout défoncé. Moi, j'étais en bas avec mes affaires, prêt à me barrer si jamais il descendait. Donc ouais, ça fait quand même un peu flipper.
La préfecture estime au total à 700 le nombre de jeunes qui se sont rassemblés hier place Sainte-Anne, puis divisés dans la ville, plusieurs lieux d'affrontement avec la police, de nombreux feux allumés dans le centre. Frédéric installe sa terrasse ce matin. Ses collègues de la nuit ont tout rangé à la hâte.
On se rend compte de la violence du truc, quoi. Et dans le bar et tout, on sent encore la lacrymo. Il y a souvent des manifs et des débordements, notamment ici, mais à ce point-là, non, j'avais jamais vu. En tout cas, de ce que je vois là le matin, quoi.
Voilà, une incompréhension alors que lui-même dit considérer le 49-3 comme un déni de démocratie. Le quadragénaire craint que ce ne soit que le début. Une manifestation est prévue dès ce matin à 11h.
Merci Marion Gauthier en direct de Rennes ce matin pour RMC. Gérald Darmanin va réunir dans la matinée les préfets. Dans une note qui leur était adressée hier, le ministre de l'Intérieur leur demande de protéger les parlementaires favorables à la réforme. La journée d'hier particulièrement attendue par les Français, désabusée pour certains par le choix de l'exécutif. Illustration dans ce bar de Mantes-la-Jolie où s'est rendu Nicolas Trénaud.
Via la télévision, le brouhaha de l'Assemblée résonne jusque dans le bar de la Tour. La voix d'Elisabeth Borne. 49-3 derrière le comptoir à Takam qui manifestait encore cette semaine se fige.
Franchement, c'est triste. J'ai l'impression qu'on se bat pour rien. Ceux qui sont dans le pouvoir, ils pensent vraiment pas à nous et qui sont vraiment là juste pour l'argent et rien d'autre.
La Marseillaise et les huées de l'opposition recouvrent la voix de la Première Ministre.
C'est beau de voir qu'il y en a, ils sont avec nous.
Les clients, un à un, jettent un œil à l'écran, secouent la tête, soufflent.
C'est inadmissible.
Houssent les sourcils.
Mais je pensais qu'ils allaient quand même passer par un vote pour démontrer qu'il y a un petit peu de démocratie. Il n'y en a vraiment pas.
Un café à manger aussi.
En terrasse, deux soixantenaires, discrets, toujours en activité, les seuls à être satisfaits de cette procédure sans vote.
Pour moi, il faut travailler, c'est tout.
Moi, je suis d'accord avec lui. 49-3, c'est pour passer à l'action et on arrête de chipoter, de faire des grèves, point.
À toutes les étapes voisines, au contraire, on espère que le combat n'est pas encore terminé. Plusieurs clients sont prêts à manifester pour continuer de maintenir la pression sur les députés.
Et les syndicats appellent à de nouveaux rassemblements calmes et déterminés dès ce week-end. En attendant une prochaine journée de mobilisation, ce sera le 23 mars, jeudi prochain. Pourquoi une telle attente ? Les précisions de Victor Jaune.
La date de jeudi a été choisie par l'intersyndicale pour laisser le temps aux militants de mobiliser autour d'eux et de s'organiser, mais aussi pour laisser la place à une éventuelle motion de censure visant le gouvernement, une séquence politique avec laquelle les syndicats ne veulent pas interférer. Certains d'entre eux ont aussi émis le souhait de ne pas perturber les épreuves de spécialité du bac qui ont lieu de lundi à mercredi. Une intersyndicale renforcée par l'usage du 49-3, ses membres estiment que ce passage en force est la preuve que les 2 mois de mobilisation sont réussis puisque le gouvernement n'a pas su trouver de majorité. La mobilisation continue donc. Les syndicats appellent d'abord leurs troupes à se rassembler partout en France dès ce week-end dans toutes les villes, y compris les plus petites, pour leur permettre d'exprimer leur colère. Une colère que l'intersyndicale souhaite canaliser puisqu'elle appelle à des actions, je cite, « calmes et déterminées ».
Et en attendant, la grève se poursuit ce matin chez les éboueurs parisiens. Des agents vont être réquisitionnés par la préfecture de police de Paris pour ramasser plus de 9000 tonnes de déchets amassés dans les rues de la capitale depuis maintenant 12 jours. D'autres actions locales sont prévues dans la matinée. C'est le cas actuellement, porte de Clignancourt dans le nord de Paris, où plusieurs dizaines de manifestants bloquent l'accès du périphérique intérieur depuis quelques minutes. Action coup de poing organisée par la CGT. Au sein de la majorité, beaucoup regrettent le choix de l'exécutif avec le 49-3. Elisabeth Borne engage sa responsabilité ainsi que celle de son gouvernement. Plusieurs motions de censure vont être déposées par l'opposition. C'est le cas du Rassemblement National, mais aussi du petit groupe indépendant, l'IOD. C'est d'ailleurs celle qui a le plus de chances d'aboutir. Et pour cela, elle devra obtenir la majorité. Une fois de plus, Hélène Terzian, tous les regards se tournent vers la droite.
Effectivement, pour que cette motion transpartisane recueille la majorité dans l'hémicycle, 287 voix à ce jour, il faut qu'au moins 30 députés LR la votent avec l'intégralité du groupe Liot, du RN et de la NUPES. Or, dès hier, le chef du parti, Éric Ciotti, a annoncé que LR ne s'associerait à aucune motion de censure. Et même si cela a été officiellement acté, certains semblent une fois de plus faire bande à part. Dans la foulée de cette annonce, une poignée de députés déjà contre la réforme se sont de nouveau désolidarisés du groupe. Le député Aurélien Pradier, par exemple, n'écarte pas l'hypothèse de voter une motion de censure et, selon les calculs internes, il serait une dizaine de députés LR prêts à voter celle de Liot, car pour certains, soutenir la motion du Rassemblement National reste une ligne rouge. Mais là encore, les avis divergent. Il faudra faire avec ce qu'il y a, assume un député LR, la provenance. L'annonce, dit-il, de la motion n'a aucune importance.
Hélène Terzian du service politique à RMC. Notez que les oppositions ont jusqu'à 15h20 ce vendredi pour déposer leur motion. Oui. Nice poursuit son aventure européenne après sa victoire face au Sheriff Tiraspol 3-1. Hier soir, les Aiglons se qualifient pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. Tirage au sort ce vendredi. Coup d'envoi de la 28e journée de Ligue 1 ce soir. Nantes se déplace à Lyon. Et puis Didier Deschamps a dévoilé sa liste hier pour affronter les Pays-Bas et l'Irlande la semaine prochaine en qualification à l'Euro 2024. Brice Samba, Wesley Fofana et Kefren Thuram feront leur première apparition en bleu et seront donc à Clairefontaine.
Et puis les courses, c'est sur l'hippodrome d'Anguin.
C'est en nocturne à 20h15 sur RMC Découverte. Le 7 Espoir du Noyer est le favori de la Dream Team RMC. L'outsider, c'est le 5 Divine de Navarre. Le 7 et le 5.
Elle est divine. C'était donc le journal de Thibaut Texer, 7h37 sur RMC.
RMC, 6h39h.
Apolline Matin.
Que va-t-il se passer avec le 49-3? Quel avenir pour la réforme des retraites? Le gouvernement peut-il tomber? Toutes les clés pour comprendre la suite du feuilleton de la réforme des retraites au Parlement. Vous les aurez dans un instant grâce à la politologue et spécialiste de la Constitution, Anne-Charlène Bézina.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h40, excellent réveil à vous tous sur RMC.
L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est vous, Anne-Charlène Bézina. Bonjour, vous êtes politologue, bonjour. Vous êtes constitutionnaliste et avec vous, on veut essayer de comprendre, il y a beaucoup de mots depuis hier, le 49-3, la motion de censure. Qu'est-ce que ça veut dire et quel impact concret? D'abord, le 49-3, est-ce que c'est un déni de démocratie?
A priori, à partir du moment où on parle d'un texte qui est dans une constitution qui a été votée par le peuple, on ne peut pas parler de déni de démocratie. C'est évidemment un outil constitutionnel aux mains du gouvernement depuis 58, qui a été utilisé à de nombreuses reprises par de nombreux gouvernements dans de nombreuses situations. Donc non, déni de démocratie, c'est un peu fort. Néanmoins, c'est vrai que le 49-3, par rapport aux autres alinéas de l'article 49, c'est un engagement de responsabilité très spécial, puisque en fait, vous privez le Parlement d'un débat, d'un vote, vous lui dites soit c'est le renversement, soit c'est l'adoption forcée. Donc, c'est en cela qu'on parle de déni de démocratie parlementaire, dans le sens où l'Assemblée nationale n'a pas droit à son débat, son amendement, son vote. Et c'est ça qui choque aujourd'hui les Français.
Alors, je vais vous reposer la question. Le 49-3, c'est un outil légal de la Constitution, mais dans ce contexte, c'est-à-dire après 2 mois de mobilisation, après plusieurs journées record de mobilisation, dans un contexte rappelé régulièrement par les syndicats où l'élection même d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen est la première déclaration d'ailleurs d'Emmanuel Macron qui disait « cela m'oblige », est-ce que dans ce contexte-là, c'est un déni de démocratie ?
C'est dans ce contexte-là qu'il est moins accepté. Alors je rappelle quand même qu'Elisabeth Borne l'a déjà utilisé 10 fois dans l'automne, hein, sans que ça ait particulièrement animé la rue ou l'opinion.
C'était plus néanmoins, sur des textes, je dirais, fonctionnels.
C'est sur des textes financiers qui sont quand même capitaux pour l'avenir du pays, mais sur lesquels c'est vrai qu'on a moins de sensibilité. Ce qui est important de dire aussi, c'est que c'est l'échec de la majorité relative qu'on a vécu hier, parce que ça prouve tout simplement qu'on n'arrive pas à aller au compromis. On a longtemps pensé, à la sortie des urnes, que ça allait aider justement le Parlement à être plus représentatif, à pouvoir représenter les sensibilités.
Mais peut-être pas sur un texte comme celui-ci.
Précisément, sur un texte comme celui-ci, il est tellement clivant qu'on se rend compte que le 49-3, c'est l'arme, tout simplement, pour passer quand on n'arrive même pas à mettre son assemblée d'accord.
Ça rappelle donc, en effet, que le président ne bénéficie pas d'une majorité. Est-ce qu'il peut continuer à gouverner avant même de savoir s'il va techniquement pouvoir, c'est-à-dire est-ce qu'une motion de censure va être déposée, sans même penser aux motions de censure, simplement avec le résultat d'hier, à quoi peuvent ressembler les 4 années qui restent de ce mandat ?
C'est bien la grande question, c'est-à-dire qu'en fait, on a aujourd'hui une Assemblée nationale qui nous a montré qu'elle était fracturée, qu'elle n'arrivait pas à proposer des majorités de projets, comme finalement, ça fait partie du discours d'investiture d'Elisabeth Borne. Le gouvernement Elisabeth Borne sort lui-même très affaibli de l'absence de contrat de majorité, et le président de la République n'est pas non plus dans l'opinion à son moment le plus fort. Donc, accumuler ces 3 impopularités et ces 3 clivages très forts avec celui de la population qui est en rogne, il faut le dire, ça fait beaucoup et c'est assez inédit sous la Ve République qu'on ait autant finalement de facteurs institutionnels de blocage qui se retrouvent dans une même période de temps. Ajoutons à cela l'inflation, le ras-le-bol, ça fait quand même beaucoup.
Ça fait et il va falloir 4 années qui viennent vont être très longues pour le président.
Il va falloir une réponse.
S'il n'y a rien qui change. Alors maintenant, motion de censure. D'abord, je voudrais que vous nous redisiez et qu'on prenne quand même le temps de le dire, parce que c'est pas une évidence pour tout le monde. C'est quoi une motion de censure et quel est l'impact d'une motion de censure ?
Alors, une motion de censure, c'est très traditionnel dans un régime parlementaire. C'est même la clé du régime parlementaire. C'est l'arme par laquelle le Parlement peut destituer son gouvernement, peut le rendre démissionnaire. Alors, ça prouve que l'Assemblée nationale a ce pouvoir, mais néanmoins, là encore, notre Constitution a rationalisé ça, un peu comme elle l'a fait avec le 49-3. Elle a voulu rendre la motion un
on
peu
peut,
plus difficile.
On peut, mais c'est pas facile.
On peut, c'est plus difficile, notamment parce qu'il faut être vraiment contre ce gouvernement. On peut pas avoir absence ou piscine, comme on l'a vu ces derniers jours avec la tentation d'être un petit peu pour et contre. Ici, il faut vraiment voter un contre.
Il n'y a pas d'abstention.
Il n'y a pas d'abstention possible. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a laissé ce délai de 48 heures de réflexion, qui est propre à la Ve République, que d'autres démocraties n'ont pas, pour vraiment être sûr de coaliser contre. Pourquoi ? Parce que la motion de censure, c'est pas seulement le Parlement qui renverse le gouvernement. C'est le Parlement qui doit montrer qu'il est en capacité de proposer autre chose. Et c'est pour ça qu'en fait, le seuil est aussi haut de 187 membres aujourd'hui, parce qu'il faut une alternative, il faut que les oppositions, presque toutes les oppositions, se coalisent pour le faire tomber.
Vous avez parlé de ce délai de 48 heures, je voudrais juste préciser de quoi il s'agit. Entre l'instant où Elisabeth Borne annonce l'utilisation du 49-3, déclenche le 49-3, et le dépôt d'une première motion de censure, déjà il faut 24 heures. Et ensuite, pour que cette motion de censure soit examinée, il faut 24 heures supplémentaires. Ce qui, en l'espèce, nous conduit probablement à la journée de lundi pour
c'est
l'examen.
La conférence des présidents qui nous dira exactement.
Pour l'examen de ces motions de censure. Elles devraient être au nombre de 3. Une motion de censure déposée par le Rassemblement National. Une motion de censure, et c'est ce que nous annonçait Raquel Garrido dans ce studio il y a une demi-heure, déposée donc par la NUPES. Et une troisième motion de censure, plus inédite, déposée par le groupe du Centre et par la personne de Charles de Courson. Est-ce que c'est un scénario totalement impossible ou est-ce qu'il y a une petite possibilité pour que cette motion de censure-là aboutisse ?
Déjà, redire que sous la Ve République, la motion de censure, c'est plutôt une arme de défense, mais ça a rarement abouti une seule fois. Ça n'a marché qu'une fois, et pas sur un 49-3, hein, sur une motion de censure pour le coup courageuse, parce que provoquée par l'Assemblée nationale en 62. Et c'est celle-là d'ailleurs qui a donné le précédent au président de la République de vouloir dissoudre juste après, parce que le général de Gaulle, très fâché qu'on destitue son gouvernement, dissout dans la foulée. Mais c'est la seule fois où c'est arrivé, c'est rare que les motions de censure aboutissent. Ici, si on fait nos comptes, on se rend compte compte que l'ensemble des groupes d'opposition, et si vraiment tous sont coalisés, représentent à peu près 260-262 voix, ce qui fait que les LR doivent être la cheville ouvrière.
Alors d'après les informations du service politique d'RMC, c'est Romain Cluzel qui nous le disait hier soir, 10 députés LR se disent déjà prêts à voter cette motion de censure déposée par Charles de Courson. Il en faudrait au moins 30. Il en manque
au moins 30. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui rend aussi la motion de censure si difficile. C'est peu probable qu'elle
aboutisse. Alors, essayons d'imaginer les deux scénarios. L'un, on a bien compris, qui est quand même très hautement improbable, qui serait que cette motion de censure soit adoptée. Si c'était le cas, dans ces cas-là, le gouvernement tombe immédiatement.
Exactement. La première ministre est tenue de présenter une lettre de démission au président qui est tenue de l'accepter.
La réforme est annulée. Dans ces cas-là, la réforme des retraites tombe aux oubliettes.
Complètement abandonnée.
Et Emmanuel Macron probablement dissout l'Assemblée.
Alors, la première chose, c'est que déjà, on n'a plus de gouvernement. Donc, il est obligé de remanier, de faire savoir qu'il accepte la démission. Et c'est vrai que dans la foulée, il peut. La dissolution, c'est un pouvoir propre. Donc, c'est l'arme la plus simple à dégainer pour le président de la République. Il lui suffit de consulter le premier ministre et les présidents d'Assemblée dans une réunion informelle. Et il dissout quand il le souhaite.
Alors, deuxième scénario bien plus vraisemblable, aucune de ces motions de censure n'aboutit. La réforme est adoptée. Automatiquement adoptée.
Exactement, puisque c'est le dogme de l'article 49.3. Si vous ne me renversez pas, vous adoptez mon texte sans modification. Donc le texte est adopté. Attention, il reste encore une borne importante, celle du Conseil constitutionnel, puisque les oppositions ont fait savoir qu'elles allaient déposer des recours. J'imagine qu'il y aurait même d'ailleurs plusieurs recours. Et sur plusieurs points, le fond, mais aussi la procédure, et surtout le contenu du texte, puisque le fait de choisir un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative,
est-ce que ça pourrait faire carrément sauter l'ensemble du texte ? C'est-à-dire que, est-ce que, contrairement à l'habitude où un ou deux articles peuvent éventuellement être considérés comme inconstitutionnels, est-ce que le fait, comme vous le disiez, d'avoir mis ce texte, qui en réalité est un texte politique majeur, dans un véhicule législatif de sécurité sociale, est-ce que ça peut être carrément un motif d'annulation de la loi? C'est-à-dire, est-ce que le Conseil constitutionnel peut dire, vous l'avez fait au forceps, ça n'était pas le cadre juridique normal, donc la loi est annulée?
Alors, les motifs procéduraux sont souvent des motifs d'annulation totale, puisque si toute la procédure est à reprendre, évidemment, tout le texte est annulé. Est-ce que le Conseil constitutionnel ira jusque-là? C'est une grande question, puisqu'il faut quand même avouer que, à partir du moment où certaines des dispositions touchent bien à l'équilibre budgétaire de la sécurité sociale sur cette année, il y a moyen de se raccrocher aux branches, et le Conseil constitutionnel pourra toujours dire cette procédure se justifiait pour au moins certaines parties du texte, ce qui n'interdit pas qu'il censure quand même des dispositifs. Je pense notamment à l'index senior, à ces éléments qui sont un peu borderline sur le contenu du texte, parce que ça n'est pas le contenu d'un texte financier.
Mais au fond, c'est d'ailleurs ce qui permettra d'annoncer. C'est qu'on sait que les députés eux-mêmes savaient, en mettant cet index senior, qu'en réalité il ne tiendrait pas. Donc c'était probablement aussi
un coup de poker, voilà.
Du théâtre. Merci en tout cas, Anne-Charlène Bézina, avec vous. On a vraiment tout compris et je voulais qu'on puisse prendre le temps de comprendre ce moment qui est vraiment un moment constitutionnel majeur. Vous êtes donc spécialiste de la politique et de la Constitution. Toutes ces questions-là, je les poserai version politique à mon invité à 8h30, qui est Olivier Dussopt, donc le ministre qui a porté cette réforme des retraites. Il est 7h49.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Et dans un instant, on revient sur toute autre chose avec des révélations explosives sur les circonstances de l'agression et de la mort d'Ivan Colonna en prison. C'est dans un instant avec Nicolas Poincaré.
Apolline Matin. Le bonus RMC.
Le bonus RMC, le bonus de Charles, avec ce soir le grand retour du Palmachot sur TF1.
Oui, le fameux duo composé de Grégoire Ludig et David Marseille. Ils ont d'abord percé sur YouTube avant d'exporter leurs sketchs à la télé et même de réaliser plusieurs comédies au cinéma. Ils sont donc de retour ce soir sur TF1 avec des sketchs, des fausses pubs, des fausses séries, des chansons ou encore des parodies comme celle des interviews d'après match de rugby.
Et c'est ça, comme première, là, on a beaucoup subi, on a pris beaucoup de caramel, on a balancé beaucoup de briques, ça a même chacaillé, après on a rébuffé dangereux. Mais disons qu'en deuxième, on va faire chanter la gonfle.
Voilà, donc j'ai rien compris de ce qu'il a dit en même temps. Pour une fois que c'est pas moi, le mec parle de caramel, je crois, tu as avalé la trompette. Il a avalé la trompette. Tu as avalé la trompette, raconte un peu la trompettasse.
Quoi?
Ok, c'est en tout cas, tu es un bon gars, tu es un mec super. Vive le rugby, vive Dax, vive Bayonne, vive Narbonne, vive Brive-la-Gaillarde.
Et avant de les retrouver ce soir à la télé, les fans du Palmachot seront ravis d'apprendre que toutes leurs parodies musicales sont désormais dispo sur les plateformes de streaming, comme cette reprise de Maître Gims.
Ça me vénère quand je marche en chaussettes dans la salle de bain. Et qu'il y a de l'eau partout, je fais ça tous les matins. Je tire mal mon rideau, qu'il y a des motifs indiens. Oh, ça me vénère, oui, ça me vénère.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h53 et c'est l'heure de Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous.
Alors expliquez-nous, Nicolas, de nouvelles révélations sur l'assassinat en prison d'Ivan Colonna. La commission d'enquête parlementaire vient d'apprendre que l'agresseur du nationaliste corse avait proféré des menaces précises la veille de son passage à l'acte. Des révélations qui évidemment sèment le trouble.
Ouais, le 2 mars 2022, une surveillante de la prison centrale d'Arles a surpris une conversation entre trois détenus. Elle a entendu Franck Elongabé dire « je vais le tuer ». Et c'est ce détenu, islamiste et violent, qui effectivement a assassiné Ivan Colonna le lendemain. La veille, il avait donc dit « je vais le tuer » et il avait ensuite curieusement rangé sa cellule. Lorsqu'on lui avait demandé pourquoi, il avait répondu « je fais le vide » comme s'il savait qu'il allait bientôt quitter cette cellule. La surveillante a ensuite fait son travail. Elle a transmis le jour même ses informations à sa hiérarchie. Elle a entré ses observations dans le logiciel consacré aux détenus particulièrement surveillés.
Mais ces alertes n'ont pas empêché l'assassinat d'Ivan Colonna le lendemain.
Non, mais en réalité, ce n'est pas ça qui pose vraiment question, parce qu'un détenu qui dit « je vais le tuer » ou bien qui range sa cellule, c'est assez courant et on ne peut pas, après coup, ce serait un peu facile, reprocher à l'administration pénitentiaire de n'avoir pas deviné ce qui allait se passer. Ce qui pose question, en revanche, c'est qu'on apprend que maintenant, un an après, l'existence de ces éléments, alors que la surveillante affirme qu'elle a envoyé deux courriers après l'assassinat. La commission d'enquête parlementaire a auditionné les dirigeants de la prison et les responsables du renseignement pénitentiaire qui, à aucun moment, n'ont fait état de ce témoignage. Mais plus surprenant encore, c'est que les détenus particulièrement surveillés, comme l'était l'assassin d'Ivan Colonna, font l'objet de rapports quotidiens où chaque incident doit être noté. Or, curieusement, le dossier informatique de Franck Elongapé ne contient aucune information durant tout le mois qui a précédé son geste. Sa fiche est vide. Deux hypothèses, soit il a été particulièrement sage pendant un mois, ce qui n'était pas son genre, soit son dossier a été nettoyé. Le président de la commission d'enquête, le député nationaliste corse Jean-Félix Acquaviva, s'interroge sur un possible effacement de ces données et il menace de saisir la justice si cette hypothèse devait se confirmer. En attendant, la commission veut réentendre les responsables de l'administration pénitentiaire et les interroger sur leur silence lors de leur première audition.
Et il reste aussi des questions sur le profil et le parcours de l'assassin d'Ivan Colonna.
Oui, c'est un homme de 37 ans aujourd'hui, qui est né au Cameroun, qui est arrivé en France à 15 ans et qui avait déjà des troubles psychiatriques. Il se convertit à l'islam et part en Afghanistan participer au djihad. Il est finalement arrêté par les Américains, détenu 2 ans sur place, puis remis à la France. Il a été condamné à 9 ans de prison pour association de malfaiteurs terroristes. Il a commis en prison une trentaine de faits de violence, notamment des agressions de surveillants et de détenus. Il a aussi été condamné pour une tentative d'évasion. À la centrale d'Arles, il dormait à même le sol, il s'était fait pousser la barbe, il tenait des propos radicaux et il refusait de parler aux surveillantes. Mais malgré ce parcours chaotique, il avait obtenu le statut d'auxiliaire de sport, ce qui lui donnait une certaine liberté de mouvement. C'est comme cela qu'il a pu se retrouver seul avec Ivan Colonna dans une salle de sport. Les députés de la commission d'enquête s'interrogent sur ces avantages obtenus et ils ont posé la question aux responsables du renseignement pénitentiaire. Est-ce que ce détenu était un de leurs indicateurs? La réponse qu'ils ont obtenue, c'est secret défense. Les auditions de la commission parlementaire doivent se poursuivre jusqu'au mois de mai. Les députés espèrent en apprendre plus.
Et j'ai bien entendu, vous disiez qu'il refusait de parler aux femmes, en fait. Oui, il refusait de parler aux surveillants.
Un des multiples signes de sa radicalité, oui.
Nicolas Poincaré, vos explications, c'est tous les jours à 7h50 et c'est bien sûr à tout moment en podcast sur l'appli RMC. Restez bien avec nous. Dans un instant, la météo et le journal de 8h avec à la une cette action de la CGT sur le périphérique parisien. Nous serons en direct sur place dès le début de ce journal.